Bonjour à tous. C'est un procès très attendu qui s'ouvre aujourd'hui, celui des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher en janvier 2015, plus de 5 ans et demi après. 14 personnes seront jugées pour leur complicité présumée dans la préparation de ces attaques, des frères Kouachi et d'Amedi Coulibaly. Au total, 17 personnes ont été tuées dans ces attentats. Un procès qui s'ouvre aujourd'hui et Charlie Hebdo qui veut frapper fort. Le journal satirique republie les caricatures de Mahomet en une de son dernier numéro. Elle lui avait valu d'être la cible des djihadistes. Le Pakistan, hier soir, condamnait. Quand, depuis le Liban, le président français Emmanuel Macron estimait, lui, qu'il y a en France une liberté de blasphémer. Nous reviendrons sur ces publications dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, nous irons au Liban, où se trouvait donc hier soir Emmanuel Macron, et où les dirigeants ont indiqué qu'ils s'efforceraient de former un nouveau gouvernement dans 15 jours. Paris pourrait accueillir une conférence internationale en soutien au Liban, ce serait en octobre prochain, une aide conditionnée toutefois aux réformes menées par le futur gouvernement. Après le Liban, direction l'Irak pour le chef de l'État aujourd'hui. Il a rendez-vous tout à l'heure à Bagdad pour lancer une initiative de soutien à la souveraineté du pays. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi Donald Trump qui qualifie les émeutes de Kenosha de terrorisme intérieur. Le président américain était dans la ville du Wisconsin hier. Il y a 10 jours, je vous le rappelle, Jacob Blake, un afro-américain de 29 ans, y avait été grièvement blessé, touché par un policier qui lui avait tiré dans le dos à 7 reprises. Depuis, les manifestations s'enchaînent à Kenosha. Et puis notez l'ouverture de la Mostra de Venise aujourd'hui en Italie. C'est le premier grand festival de cinéma qui se tient en pleine pandémie de Covid-19. Pas de fans cette année. Le public suivra le festival sur grand écran avec moins de catégories et des cinéastes en vidéoconférence. 18 films sont en lice pour le Lion d'Or. Nous irons à Rome dans une demi-heure lors du journal de 6h30.
La police est-elle plus violente sous la présidence Macron? Les ondes de téléphone portable donnent-elles le cancer? L'allaitement est-il indispensable pour le nourrisson? L'homosexualité est-elle un choix? Mais surtout, est-ce que le Père Noël Rubicon et Barbu est une invention de Coca-Cola? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses, les idées claires. C'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr. Chaque soir à 21h, de lundi à vendredi, réfléchir le monde autrement, de grands thèmes de société, autour de l'école et l'éducation, être et savoir avec Louise Touret, l'environnement dans De cause à effet d'Aurélie Luneau, Antoine Garapon éclaire le droit dans Esprit de justice, Dominique Rousset ausculte les cartes de nos géographies sociales. Sous l'angle de la philosophie, Frédéric Worms s'interroge ce qui se passe à présent. Cultivons nos savoirs, nos envies, nos questions autour de grands thèmes et débats de société, chaque soir à 21h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, très bon réveil avec France Culture. Le réveil culturel, justement, sera à suivre dans quelques minutes avec Toufik Hakem. Mais avant cela, c'est un monde vivant avec Bruno David, le cœur de pierre du Micraster à la une ce matin.
Avoir un cœur de pierre. Image fort connue, qui rejoint pourtant une réalité bien tangible. Je vous propose d'aller à Étretat voir son aiguille. Fragment célèbre et magnifique des falaises de craie qui bordent les côtes de la Manche, dont on retrouve le symétrique en Angleterre. Monumentales falaises qui sont le témoin sédimentaire d'une vaste mer peu profonde qui couvrait l'Europe du Nord actuelle il y a 70 à 90 millions d'années. La craie est faite de l'empilement de milliards d'organismes minuscules du plancton. Les cadavres de ces organismes formaient au fond de la mer de la craie un environnement meuble, riche en matière organique et propice aux invertébrés marins. Parmi ceux-ci, des oursins un peu particuliers qui ne sont pas circulaires comme ceux que l'on déguste, mais qui ont un côté droit et un côté gauche, un avant et un arrière. Ces oursins vivaient enfouis dans la vase crayeuse, y creusant des galeries et s'en nourrissant à la manière de vers de terre. Leur forme échancrée à l'avant, arrondie sur les côtés, plus ou moins effilée à l'arrière, évoque celle d'un cœur, à tel point que le nom latin de plusieurs espèces y fait explicitement référence. Micraster cortestudinarium pour cœur de tortue, coranguinum pour cœur de serpent. Voici donc d'authentiques cœurs de pierre. Pour ajouter au mystère qui les entourait, ces fossiles sont ornés sur leur face supérieure d'une étoile à 5 branches, évoquant les étoiles célestes. Tout était en place pour que ces curieuses pierres tombées du ciel ouvrent la porte à diverses légendes. Ces cœurs de pierre étoilés ont ainsi été parés de vertus protectrices ou propitiatoires, et ce à commencer par nos très lointains ancêtres. En Angleterre, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Londres, une sépulture du début de l'âge du bronze a été découverte en 1887. Les squelettes enlacés d'une femme et d'un enfant y étaient entourés de plus de 200 oursins fossiles, très émouvants. Encore en Angleterre, les oursins fossiles assimilés à des miches de fées garantissaient que leurs possesseurs ne manqueraient jamais de pain. Toujours en Angleterre, ces oursins « cœur de pierre » placés sur un rebord de fenêtre, protégeaient la maison du mauvais œil, y compris de la foudre. Dans d'autres contrées, comme la vallée du Rhône, le remède contre la foudre est de nouveau un cœur de pierre. Mais cette fois, il faut le lancer par-dessus la maison pour une protection définitive. Quand même plus simple que d'installer un paratonnerre. Pour terminer avec cette énumération, si vous envisagez de jouer au casino et souhaitez éviter la malchance, prenez un oursin fossile, crachez dessus, et jetez-le par-dessus votre épaule gauche. Gain garanti. Et la prochaine fois que vous serez tenté d'utiliser l'expression « il ou elle a un cœur de pierre », pensez aux oursins fossiles qui ont tant de vertus positives.
Mettez vos sens en éveil. 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, l'actualité de la culture c'est tous les jours, tôt à la radio dans les petits matins de France Culture ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en différé sur notre site ou l'abonnement au podcast du Réveil Culturel. Les mercredis, le cinéma est à l'honneur et ce matin, je reçois le réalisateur Olivier Babinet pour la sortie en salle aujourd'hui de Poisson Sexe, un film dystopique qui tombe à pic puisqu'il nous interroge sur l'extinction des espèces et l'avenir incertain du genre humain. Mais cette dystopie a ceci de particulier, les choses les plus graves sont racontées d'une manière loufoque et tendre avec un zeste de fantastique.
Le Réveil Culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Olivier Babinet.
Bonjour.
Comédie romantique et fable écologique, votre dernier film, Poisson Sexe, en un seul mot, n'en reste pas moins une dystopie, puisque nous sommes dans un futur proche, très proche même, car tout nous est familier dans ce film, dans une ville imaginaire qui ressemble à plein de villes occidentales et prospères, et où une question vitale se pose. L'espèce humaine doit-elle s'adapter, comme les méduses, ou disparaître, elle aussi, comme les poissons? L'heure est grave, les scientifiques s'affairent, c'est une course contre la montre, qui d'ailleurs résonne avec nos peurs contemporaines. Comment redonner aux poissons de laboratoire l'envie de copuler et espérer ainsi repeupler les mers et les océans pollués?
Qui aurait imaginé pareil événement il y a seulement 10 ans? Miranda, la dernière baleine vivante du monde, s'est échouée cette nuit à 4h45 sur la plage de Front Vert. Elle est, à l'heure où je vous parle, à l'agonie, sous le regard impuissant des cétologues. C'est un tournant historique pour l'humanité, qui a perdu près de 80% des espèces animales ces 50 dernières années.
Miranda.
Miranda. 0 km/h. Trajectoire interrompue. Trajectoire interrompue.
Voilà, on est dans un futur très proche, mais il n'y a plus de poissons. Miranda vient de mourir, alors que toute l'humanité suivait un peu cette dernière baleine, Olivier Babinet.
Oui, c'est aussi des espèces disparaissent. Il y a les rhinocéros. Je vois chez nous cette capacité à nous habituer à tout, à regarder sur nos écrans, sur nos tablettes, à s'envoyer des bulletins d'information sur Facebook avec des événements dramatiques. Et je voulais montrer ce que nous, les humains, on continue dans nos vies, on continue à devoir remplir notre frigo, à se faire engueuler par son patron, à être amoureux, à être triste parce qu'on n'est plus amoureux, parce qu'on s'est fait larguer. Et cette c'est juste pousser un petit peu le curseur un peu plus loin, quoi. Là, c'est la dernière baleine. Ça arrivera peut-être un jour, je le souhaite pas, mais...
Ce film a été écrit, pensé, préparé, tourné avant la crise sanitaire. Il sort après. Il a un côté fable écologique, hein, même si vous jouez avec tous les genres du cinéma, parce qu'il y a un côté thriller, il y a un côté comédie romantique, avec une histoire d'amour. Il y a aussi un côté thriller. Qu'est-ce qui va arriver à ces personnages avant de basculer dans le fantastique? On va en parler, Olivier Babinet. Mais s'il fallait parler de l'origine de ce film.
L'origine, c'était j'ai fait une liste des films que j'avais préférés les dernières années, juste avant de commencer à écrire, et je me suis rendu compte que j'étais un petit cœur fragile parce que dans cette liste il y avait beaucoup de comédies romantiques et de films romantiques, et en même temps c'est la base du cinéma, c'est la phrase de d'Orson Welles, le cinéma c'est boy meet girl, c'est voilà, un homme rencontre une femme, est-ce qu'ils vont s'aimer, est-ce qu'ils vont s'embrasser, ça nous tient en haleine, que ça soit même dans La Guerre des Étoiles, est-ce que la princesse Leia va tomber dans les bras de Han Solo ou de Luke Skywalker. Donc j'avais envie de faire une histoire d'amour. Après, j'avais envie de m'approprier aussi le genre, et puis j'étais moi-même, je m'étais intéressé par hasard au rejet de shampoing dans l'eau, qui déréglait la sexualité des poissons, et puis au rejet...
Jusqu'à les faire disparaître dans votre film.
Oui, mais je suis parti que de choses vraies, parce que j'ai commencé à dérouler ce fil. Je me suis dit, je vais mettre en parallèle les problèmes de sexualité des poissons et les problèmes sexuels et sentimentaux des humains. Parce que les phénomènes qui affectent les poissons, c'est des phénomènes qui sont en cours. Hein. En Suisse, ils sont en train de rénover toute leur centrale d'épuration, ce qu'on fait pas nous. Il y a des raisons. La qualité du sperme a baissé de 40% à Paris, je crois, depuis 15 ans, quelque chose comme ça. Les gens ont du mal à avoir des enfants, ils font des enfants plus vieux. Il y a le pénis qui rétrécit chez certains alligators, statistiquement, mais aussi chez certains bébés au Danemark, à certains endroits où on voit telle eau. Et moi, je voulais faire cette histoire d'amour, en même temps j'avais envie d'avoir un enfant, je me sentais un peu vieillissant, je voyais les gens autour de moi qui avaient du mal à en avoir, je me disais, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais y arriver, et c'était cette question aussi, avoir un enfant dans ce monde-là, comment, voilà, on donne la vie, et puis en même temps c'est tellement incertain, on est tellement bombardé de nouvelles angoissantes. Voilà, je voulais parler du désir d'un homme, du désir masculin, parce qu'il existe aussi l'horloge interne, comment on dit, l'horloge existe pour les hommes aussi, et ils ont envie d'avoir des enfants. Mais qu'est-ce qui fait qu'on continue à vouloir perpétuer notre espèce, à vouloir avoir envie d'avoir des enfants dans un environnement un peu problématique, quoi. Et puis effectivement, là, avec tout ce qui s'est passé, c'est sur le confinement. Le film c'est comme s'il avait changé pendant le confinement, je trouve, parce que c'est plus le même. Je pense qu'il résonne, il nous renvoie à nos vies, à nos...
Et surtout à nos peurs. Poisson sexe, donc. Et puisque vous parlez de l'horloge biologique de Daniel, le physicien, qui est le rôle principal de votre film, joué par Gustave Kervel. Alors lui, c'est un physicien, mais alors très, très obstiné, qui tente donc de redonner aux poissons l'envie de copuler. Est-ce que ça existe? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque part dans des laboratoires des gens qui se posent cette question en disant comment sauver des espèces en voie de disparition?
Ça, je ne sais pas comment c'est, vous savez, des espèces en voie de disparition. Par contre, des scientifiques qui regardent des poissons copulés, oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, les scientifiques peuvent commander des espèces de poissons zèbres. Tiens, j'aimerais un poisson avec des neurones phosphorescents parce que j'ai besoin d'observer son activité cérébrale. Donc, on commande des espèces, on fabrique des espèces même pour certaines expériences. Mais tout au long du film, j'ai été accompagné par l'avis éclairé de Georges de Brijas, qui est un ami à moi, qui est physicien, qui travaille au CNRS, qui travaille sur l'activité cérébrale des poissons zèbres et qui étudie leur système de vision, de stabilisation. J'ai toujours voulu... Le film, on n'en a pas parlé, mais je crois quand même drôle, parce que les gens rient beaucoup.
Sûr, on dit qu'il y avait beaucoup de choses dans les des salles, plus graves, voilà. Traitées d'une manière loufoque.
Et les gens apprécient d'ailleurs de pouvoir rire un peu avec l'apocalypse. Mais c'est vrai que je tenais à partir que de phénomènes vrais. Donc,
et on est donc dans ce laboratoire, avec ce savant, avec Daniel, ce physicien, qui tente de redonner du désir aux poissons, l'état larvaire. Bah alors justement, c'est quoi ces poissons dans ces laboratoires de votre film Poisson Sexe, Olivier Babinet?
Alors c'est des poissons zèbres qui sont très utilisés dans le monde entier par les scientifiques. En fait, ils sont intéressants pour les scientifiques, notamment pour étudier leur cerveau. D'ailleurs, mon ami Georges a observé que ces poissons ont une activité cérébrale quand ils dorment. Donc peut-être que les poissons rêvent, ce serait peut-être une théorie. On les utilise parce qu'ils ont un cerveau tout petit et qui en même temps peut ressembler un peu au nôtre. Par exemple, une souris, c'est très difficile d'observer la totalité de son activité cérébrale parce que c'est trop gros un cerveau de souris pour qu'on puisse, avec un microscope, puisse l'observer entièrement. Alors que le poisson zèbre, on le cale dans un microscope, on lui fait croire qu'il est dans l'eau, on le stimule, et on peut filmer son cerveau et voir comment il réagit.
En lui injectant des hormones, hein.
Alors ça, les hormones, ça c'est dans le scénario. Et d'ailleurs, la perte du désir chez les poissons n'existe pas vraiment. Ils dépriment par moments. Certains animaliers disent que si on leur parle pas, si on les regarde pas dans les yeux, ils dépriment. C'est dit dans le film, mais c'est vrai. Mais la perte du désir, c'est vraiment en dernier recours, parce que les espèces s'adaptent toujours pour survivre. Par exemple, j'ai entendu une histoire assez folle une population de truites, je crois, dans un lac. Il reste qu'une femelle, quelques mâles, le lac s'assèche un peu, la femelle meurt, et il y a un mâle qui va changer de sexe pour assurer la survie de l'espèce et pouvoir du coup continuer à faire des petits poissons.
Mais le fait d'imaginer des océans et les mers sans poissons, sans vivants à l'intérieur, alors que on sait très bien que le début de l'humanité vient de là, c'est-à-dire qu'on était des poissons à l'origine, c'est aussi une manière de parler de notre propre extinction qui vous fait peur. C'est pas innocent de choisir les mers et les océans.
Oui, et puis c'est vrai qu'une des théories de l'évolution, c'est que c'est un petit poisson qui a tout d'un coup eu des pattes, qui est sorti de l'eau. Et dans le film, à un moment, Daniel va trouver un amphibien étrange avec des petites pattes, qui va d'abord considérer comme de la chair à expérience, comme tout bon scientifique, qui n'ont pas vraiment de cœur quand il s'agit des poissons. Et puis, il va commencer à avoir une relation entre eux. Mais oui, la peur de l'extinction, moi j'ai la peur de l'extinction, parce que contrairement à Daniel qui n'a pas d'enfant et qui aimerait en avoir, moi j'ai 3 enfants et j'ai eu d'ailleurs une petite fille depuis cette période dont je vous parlais au début du film où je m'angoissais, est-ce que je suis encore capable d'avoir un enfant. Moi j'ai eu une fille contrairement à Daniel. J'ai cette peur là et en même temps je dirais qu'il y a une forme d'optimisme dans le film parce que j'essaye toujours de garder de l'optimisme. Et pour moi, l'optimisme, c'est du côté du vivant, plus que de nous. Parce que finalement, si on disparaît, est-ce que c'est si grave? Et il y a cette idée que tout va peut-être recommencer depuis le début, en mieux.
Parlez-nous de Daniel, incarné à l'écran par Gustave Kervan.
Déjà, pour Gustave, j'étais vraiment très heureux pendant le tournage parce que j'arrivais complètement à oublier Gustave Kervan et je ne voyais que Daniel. C'est-à-dire que, parce que c'est ça, quand on fait un film, on veut voir un personnage, on veut pas voir un acteur, on veut l'oublier. Et ça, je trouve que Gustave a parfaitement réussi à incarner Daniel. En tout cas, moi, je ne voyais que Daniel. Mais après, son caractère, c'est quelqu'un de très obsessionnel, puisqu'il passe ses journées à regarder dans un microscope électronique le cerveau de poisson. Donc, dans son travail, il fait quelque chose dans son coin qui n'intéresse pas grand monde, alors que c'est fondamental. J'ai croisé des scientifiques au Havre qui étaient très contents que je fasse un film là-dessus parce que il s'occupe de choses qui sont fondamentales pour l'humanité, pour les espèces, mais tout le monde s'en fout un peu de ce qu'ils font dans leur coin. Et Daniel, je lis là qu'il a un cœur d'artichaut, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très sensible, assez déprimé parce qu'il est traumatisé des femmes. Il veut avoir un enfant, mais il n'envisage pas vraiment de le faire avec une femme. Il fait des démarches d'adoption. Il a peur, en fait, il a peur de tomber amoureux à nouveau. Such a sweet dream, nice and breezy.
Le réveil culturel, Toufik Hakem.
Avec Olivier Babinet pour la sortie aujourd'hui de son film Poisson sexe. Donc on a parlé de ce savant, de ce physicien, Daniel, interprété par Gustave Kervan, qui écoute ce genre de musique, c'est-à-dire ce rock californien daté.
Il écoute ça parce que il travaillait avant à San Francisco dans un grand laboratoire et puis il était très amoureux de sa femme, il était marié, il voulait avoir des enfants, elle pas. C'est le drame de sa vie, sa femme l'a quitté avec son patron, le flamboyant et très médiatisé Van Bagg, qui passe à la télé et qui est le type qui a le plus prévu le premier la disparition des poissons. Il a écrit un livre, donc on le voit et il squatte les écrans parce que c'est un peu, il est devenu célèbre parce qu'il avait raison avant tout le monde. Et donc Daniel, il est venu se réfugier un peu en France, il a trouvé un poste dans un petit laboratoire au bord de la mer qui a pas spécialement de moyens puisque la recherche française dans le futur ne s'est pas, ça s'est pas arrangé à ce niveau-là. Et Daniel, il porte ses chemises avec des palmiers. Il a ramené un peu de Californie avec lui, son spleen de cette ville avant, et il écoute cette musique dans sa Jeep.
En sillonnant cette drôle de ville qui est Belle-Rose. C'est où? Vous l'avez tourné où, votre film, cette ville imaginaire? Vous l'avez trouvé où?
Eh ben, Belle-Rose, on en avait dessiné la carte avec mon décorateur, Pierre, des années avant que le film se fasse. On avait fait la carte, on avait dit, tiens, là, il y a le laboratoire de robots dans la forêt, là il y a l'Imeris, le centre de biologie marine, là il y a la maison de Daniel. Et moi, comme c'est un film d'anticipation, je voulais que ça soit familier, comme vous l'avez dit un peu au début, et en même temps c'est un petit peu différent. Donc on a mélangé le Cotentin avec les Landes, et ce que j'aimais, on a tourné surtout à une petite ville qui s'appelle Litémix, c'est Belle-Rose, en vrai. Belle-Rose, c'est un nom que j'ai inventé. Mais j'aimais bien parce qu'il y a ce côté, déjà, c'est pas une région tellement représentée au cinéma, je pense. Et elle a ce côté un peu californien parce que Daniel, il arrive pas à oublier sa vie d'avant, son chagrin. Donc, c'est comme s'il projetait sa déprime sur le monde entier. Et là, il y a plein de choses qui lui rappellent sa vie d'avant. Il y a des palmiers, il y a ses maisons. On a filmé ça un petit peu comme il y a un petit parfum de Californie, mais c'est pas exactement ça.
Et puis il y a aussi une réflexion sur l'état de nos labos. Comment sont financés nos labos? C'est dans votre film, Olivier Babinet, votre film Poisson sexe.
Les deux derniers zèbres, Adam et Ève.
Bon, ça, les deux derniers.
Ah ben, il y en a plus. Hein, je vous ai prévenu.
Bah, espérons qu'ils seront plus réactifs que ceux de la dernière fois.
Hein. Non, la dernière fois, ils étaient déprimés parce que vous avez traité comme de la merde. Les poissons, faut leur parler, c'est tout. Faut les regarder dans les yeux.
D'accord.
Faut les regarder en face, oui.
Les poissons, ils comprennent tout. Bah, on va discuter un peu, alors.
Coucou.
Ouais, ça...
Ça suffit, vous deux. On va leur parler à l'Aïd. On va les regarder dans les yeux, n'est-ce pas, Georges?
Oui.
Excusez-moi, bonjour.
J'ai appris que vous aviez encore perdu votre temps avec votre stupide robot.
Hein? N'empêche que c'est grâce à lui qu'on a eu les images d'un poisson.
Je vous rappelle qu'on n'a pas vu la queue d'un poisson sur les côtes françaises depuis 2 ans. La préparation au Monal V11 me semble une priorité autrement plus importante que vos divagations. Notre unique objectif, c'est de redonner envie de copuler à Adam et Ève.
Voilà, on voit bien à quel point vous maniez le tragique, la dystopie, et puis l'humour, la comédie. Et puis, surtout, ce personnage, la directrice du laboratoire, elle est très forte en caractère. Elle représente bien le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rendement, d'abord. Il faut aller très très vite. C'est un portrait d'une femme dure que vous dressez dans ce film, Olivier Babinet.
Oui, c'est vrai.
Et donc à contre-courant, si je puis me permettre.
c'est vrai. Et en même temps, il y a beaucoup de femmes dures. Et il y a des femmes patronnes qui se comportent aussi mal que les hommes patrons. Quoi. Je pense que c'est quelque chose qui.
Et pourtant, on comprend que c'est beaucoup plus la logique de rendement qui fait que cette femme est en train de stresser tous les savants en disant nous voulons des résultats, quoi.
Oui. Après, c'est aussi son ambition parce que elle aimerait avoir un article dans Science comme tous les scientifiques. Elle aimerait avoir plus de subventions pour pouvoir. C'est à la fois sa passion aussi parce qu'elle est aussi passionnée par son métier. Mais c'est vrai qu'elle est très intransigeante, et puis elle a mis de côté un tas de choses, et notamment les sentiments, quoi. Je veux pas raconter tout le film, mais dans sa manière d'envisager l'amour, il y a quelque chose C'est assez effrayant.
Ah oui, c'est l'autre grande question de Poisson Sexe. Comment imaginer l'amour quand tout autour de nous, il n'y a que des signaux négatifs d'une nature qui est en train de disparaître?
Ouais, après c'est vrai qu'il y a toute une partie de la jeunesse en Allemagne, ou même moi j'ai un neveu comme ça qui veulent pas avoir d'enfants. Quoi, il y a parce que bon, je bascule sur de l'amour à la reproduction, mais c'est quand même des fois lié. Il y a tout un courant de gens qui font plus l'amour aussi. Au Japon, les chiffres sont assez incroyables sur la sexualité des Japonais au sein du couple. À la fois on survalorise ça, c'est omniprésent, c'est le sésame de l'épanouissement. Et en même temps, beaucoup de gens souffrent de solitude et leur vie sexuelle n'est pas du tout à cette hauteur-là. Ou alors, carrément, des gens ont décidé d'arrêter. Mais c'est vrai que...
Il y a un goût amer dans votre film, quand même, Olivier Babinet, même si on rit beaucoup. Et puis, il y a aussi un côté fantastique. Hein, c'est-à-dire qu'à la fin, on est basculé dans quelque chose où on se pose la question, est-ce que c'est le physicien Daniel qui est en train de devenir fou, ou est-ce que c'est vraiment le poisson qui est en train de lui parler? Vous laissez un peu le spectateur entre deux eaux.
Oui, j'aime bien les films où le spectateur se raconte son histoire, et je suis très curieux de savoir ce que les spectateurs vont penser. Et puis c'est bien de laisser certaines choses ouvertes, quoi. Moi j'aime bien quand il y a une forme de mystère dans les films.
Et la morale de cette histoire, de ce film qui sort, je le rappelle, ce matin, Poisson Sexe, c'est quoi? Qu'il faut garder l'humour, qu'il faut encore croire au sentiment, à l'amour, d'une manière plus précise, même si le monde court à sa perte.
Croire à l'amour, c'est vrai que moi j'ai toujours eu peur d'être blessé au point de plus arriver à aimer, de plus oser tomber amoureux. J'ai observé ça chez des gens que je connaissais, qui pendant des années avaient plus le courage ou la capacité de tomber amoureux, ce que je peux comprendre. J'ai toujours voulu garder ça. Mais après, la morale du film, c'est ce que chacun y met. Et moi, ça m'intéresserait de connaître votre avis là-dessus.
Et pour vous-même?
Ben, pour moi-même, c'est ce que j'ai dit peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y aura toujours de l'espoir du côté du vivant. Et les choses renaîtront, avec ou sans nous. Et ça, pour moi, c'est une forme d'espoir.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Poisson Sexe sort au cinéma. J'espère que vous serez nombreux à y aller avec vos masques. C'est le moment de remettre d'ailleurs nos masques. Olivier Babinet, merci d'être passé ce matin dans le réveil culturel.
Merci beaucoup à vous.
L'esprit d'ouverture.
Nouvel horaire, nouvelle durée, mais la promesse reste inchangée, prendre le temps de se pencher sur un objet artistique du moment. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sandra Lucbert pour son livre sur le procès France Télécom, le clarinettiste Michel Portal pour Disques et concerts, la plasticienne Oula von Brandenburg pour son exposition, la romancière Lys Charles pour son nouveau roman et la musicienne Yaël Naïm.
Par les temps qui courent, du lundi au vendredi à 22h15 sur France Culture et sur franceculture.fr. Affaires culturelles sur France Culture, Arnaud Laporte.
Affaires culturelles s'engage pour la culture et la création, une émission en trois parties, un grand entretien avec un artiste, affaires en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, affaires à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger.
Affaires culturelles, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un procès pour l'histoire, celui des attentats de janvier 2015. Il s'ouvre ce matin et il s'attachera à juger 14 personnes pour complicité. C'est pour l'ouverture de ce procès que Charlie Hebdo republie les caricatures du prophète Mahomet. Entre courage et provocation, comme en 2007, nous rappellera une docteure en théorie politique. Dans ce journal, nous entendrons aussi la colère et les attentes du fils de l'ancien maire de Signes dans le Var, mort sous les coups dans l'exercice de ses fonctions l'année dernière. Rien ou presque n'a changé pour les élus, voilà ce que nous dit le fils de ce maire. Emmanuel Macron quitte le Liban ce matin après avoir eu la confirmation qu'un nouveau gouvernement y serait formé dans les 15 jours. Les détails à suivre. Et puis nous irons en Italie où s'ouvre aujourd'hui la Mostra de Venise avec une voilure réduite. Il est encore possible en France de caricaturer le prophète Mahomet. Charlie Hebdo en administre une preuve éclatante aujourd'hui en republiant les caricatures. Alors que s'ouvre le procès des attentats de janvier 2015, je vous le disais. Ces mêmes dessins qui avaient attiré sur le journal la haine meurtrière des djihadistes. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi avaient décimé la rédaction en y tuant 12 personnes. Anastasia Colosimo, docteur en théorie politique, était l'invitée de Stanislas Vazak pour le journal de 22h hier soir sur France Culture. Elle retrace pour nous l'histoire de ces caricatures et leur portée symbolique.
C'est évidemment un acte de courage et c'est surtout un rappel d'une histoire qui est beaucoup plus longue en fait que celle qui a été donnée à voir à la communauté internationale, puisque en fait l'affaire Charlie Hebdo, elle ne commence pas en 2015, elle commence en 2007 à la publication de ces caricatures. Et c'est à l'occasion de la publication de ces caricatures qu'il va y avoir un premier grand procès qui va avoir lieu entre 2006 et 2007. Et en 2007, Charlie Hebdo va sortir gagnant. Et en même temps, c'est aussi au moment de ce procès que les caricaturistes de Charlie Hebdo vont défrayer la chronique internationale comme des blasphémateurs. C'est à ce moment-là que Charles va se faire connaître aussi à l'international. C'est à ce moment-là aussi qu'il fera l'objet d'une fatwa, un tout petit peu après ce procès. Et donc, ce qui se passe en 2015 est une tragédie totale et absolue, mais qui suit aussi une histoire et qui répond à cette première publication en 2007, sachant que ce procès qui s'ouvre là aujourd'hui est comme un deuxième procès, un second procès, beaucoup plus tragique, évidemment, cette fois-là.
C'était Anastasia Colosimo, auteure en 2016 des Bûchers de la Liberté chez Stock sur la question justement de la liberté d'expression. Retrouvez à ce propos un article sur notre site franceculture.fr à l'aube donc du procès des attentats de janvier 2015. Les auteurs des tueries ayant été tués, 14 accusés seront jugés ces deux prochains mois pour complicité ou association de malfaiteurs terroristes. Un an après le décès du maire de Signes dans le Var, les violences envers les élus ne se sont pas Paris. D'après l'Association des maires de France, au moins 233 maires ont déjà subi un acte de violence depuis le début de cette année 2020, contre 198 l'année dernière au même moment. C'est donc plus cette année. Ce mercredi, le Premier ministre Jean Castex organise une réunion interministérielle à Matignon sur ce sujet. L'occasion de faire un point sur une nouvelle loi qui date de décembre. Peut mieux faire, dit ce matin Stéphane Michel, l'un des fils du maire de Signes décédé l'année dernière. Stéphane Michel dénonce une mort gratuite, une mort pour rien.
Je ressens de la colère parce qu'on ne fait rien. Quand on engraisse un maire c'est quand même un magistrat. Les maires doivent être protégés autant qu'un juge, autant qu'un avocat, autant qu'un président de la République. On engraisse un maire et on prend une belle amende, une amende à 1500 euros, c'est pas mal déjà, il faut la payer. Et puis qu'on condamne en personne, les travaux d'intérêt généraux, travailler pour une mairie et comme ça ils comprennent ce que ça en fait des conneries, peut-être que ça changerait le système. Moi j'ai perdu un père, il est mort comme un connement, il est mort dans ses fonctions, oui, parce qu'il était avec le patron de l'ONF. Ils faisaient le tour des décharges publiques. Et c'est là qu'ils sont arrêtés. Ils ont vu deux jeunes en train de décharger une camionnette des gravats. Et il s'est mis derrière la camionnette pour appeler la police. Le chauffeur ainsi que le passager ont démarré sans regarder qu'il y avait du monde derrière. Et d'un coup, ils ont reculé, ils ont roulé dessus. Et maintenant, ça laisse une place vide. Il faut faire une loi pour protéger tous les maires. Quand on fait un procès, que ce soit pour mon père ou d'autres maires, on les tienne ces procès. On n'attend pas un an, deux ans, trois ans. Carrément, c'est une mort gratuite. Il n'y a rien derrière qui se fait.
Des propos recueillis par Cécilia Arbona. Après 2 jours de visite au Liban, Emmanuel Macron propose une conférence internationale de soutien au pays qui serait organisée à Paris la 2e quinzaine d'octobre. Mais d'ici là, il espère voir un nouveau gouvernement libanais. Le président français a, semble-t-il, réussi à convaincre les chefs politiques du pays, Christian Chesneau.
Pari gagné pour Emmanuel Macron qui a réussi à faire accepter son nouveau pacte aux forces politiques libanaises. Après des entretiens en tête-à-tête avec les caciques du système à la résidence des Pins, le président français a annoncé un accord sur le calendrier à tenir. Avec un premier rendez-vous, le Parlement devra approuver le nouveau gouvernement d'ici 15 jours.
J'ai juste dit aux intéressés, si ce sont les mêmes au même poste, il y a peu de chances que ça produise un résultat différent. Qu'est-ce qui change là ? Des réformes claires, un agenda à 1 mois, 3 mois et un engagement de toutes les forces politiques derrière cet agenda de réforme au gouvernement, au Parlement. Et la deuxième chose, c'est de dire le Premier ministre désigné va constituer un gouvernement de gens probes, connaisseurs de leur secteur et de l'administration, et donc compétents. Et ce qui change, c'est qu'ils ne seront pas les représentants chacun de la force politique qui est là, elles vont adouber un tout. Ensuite, la feuille de route, je leur ai dit, vous pouvez avoir confiance, il ne faut pas que vous ayez votre espion dans le gouvernement, parce que la feuille de route, c'est la vôtre.
À côté du volet politique, un agenda économique a également été validé par les chefs de parti concernant l'électricité, le contrôle des capitaux et l'audit de la Banque centrale. L'exigence commence maintenant et je ne vous lâcherai pas, a martelé Emmanuel Macron qui a promis de revenir au Liban en décembre.
Et j'ajoute qu'aujourd'hui, le chef de l'État sera en Irak pour sa première visite depuis le début de son quinquennat. Il y sera question de la lutte contre le groupe État islamique. Il a dirigé l'un des plus grands centres de torture du régime des Khmers Rouges au Cambodge. L'ancien tortionnaire Douche est décédé ce matin à l'âge de 77 ans. Le chef de la tristement célèbre prison de Tuol Sleng avait été le premier membre du régime ultra-maoïste condamné par un tribunal pour crime de guerre. Sa photo avait provoqué l'émotion dans la planète. Aylan Kurdi, 3 ans, petit Syrien, mort noyé, retrouvé face contre terre sur une plage grecque il y a 5 ans. Le cliché est devenu le symbole de la crise migratoire. Aujourd'hui, alors que l'Europe a renforcé le contrôle de ses frontières, la photographe à l'origine de cette photo vit toujours en Turquie. Anne Andlauer l'a rencontrée à Istanbul.
Cette photo aurait pu propulser sa carrière. Au lieu de cela, Nilüfer Demir n'est plus photojournaliste. À l'époque, la jeune femme de 29 ans travaille pour l'agence de presse turque Doğan. Le matin du 2 septembre 2015, sur une plage de Bodrum, elle voit le corps inanimé d'un petit garçon, visage dans le sable mouillé, et celle d'un garçonnet un peu plus âgé. C'est Aylan Kurdi, 3 ans, et son frère. La photographe est pétrifiée, mais elle prend plusieurs clichés qui font le tour du monde. Cet instant fut et reste, de son propre aveu, le plus dur de sa vie. Et si elle n'imaginait pas alors l'impact de sa photo, elle se prit à rêver ensuite que cette image change le monde. L'espoir n'a pas duré longtemps. Après l'élan de compassion des premières semaines, les États européens ont refermé leurs frontières et signé avec Ankara un pacte migratoire pour bloquer les passages. Les larmes des dirigeants du monde étaient des larmes de crocodile, s'insurge aujourd'hui Nilüfer Demir, qui rappelle que des enfants se noient encore régulièrement dans les eaux de l'Égée ou de la Méditerranée, loin des objectifs des appareils photo. Devenue maman, elle confie ne pas pouvoir regarder son enfant sans penser très régulièrement au petit Aylan Kurdi, qui aurait 8 ans aujourd'hui.
Effectivement, les arrivées de migrants sur le continent européen continuent. Par exemple, plus d'un millier de personnes, de migrants, se trouvent bloqués en ce moment sur la petite île de Lampedusa. Le maire de l'île et le président de la Sicile seront à Rome aujourd'hui pour trouver une solution à cette crise. C'est le premier grand festival de cinéma qui se tient depuis la crise du nouveau coronavirus. La Mostra de Venise débute aujourd'hui. Une édition évidemment pas tout à fait comme les autres, crise sanitaire et économique oblige, mais c'est bien pour cela que le plus ancien des festivals internationaux de cinéma se tient coûte que coûte, Bruce de Galzin.
C'est un signal que veut donner Venise, une espérance pour le monde du cinéma. On ne pouvait pas ne pas la faire, cette Mostra, a tweeté le directeur du festival Alberto Barbera. Il a invité les 8 directeurs des grands festivals de cinéma et Thierry Frémaux, qui n'a pu organiser Cannes, sera présent. En revanche, moins de stars que d'habitude, et notamment américaines, moins de blockbusters américains également, pourtant courus à Venise, même s'ils sont présentés par des plateformes comme Netflix. Mais aux États-Unis, la production de films est totalement interrompue. Le cinéma italien, lui, sera particulièrement bien représenté, mais le directeur du festival se félicite d'avoir plus de 50 pays représentés dans la programmation cette année. Les conditions d'accès seront bien entendu très strictes, mesures de sécurité, prise de température pour chaque festivalier, port du masque et capacité des salles de projection réduite. Et puis, impossible d'assister à l'arrivée des stars sur le tapis rouge, un mur de 2 mètres sépare les visiteurs et le palais du cinéma. Ils pourront voir les images sur écran géant.
Et cette Mostra de Venise va durer 10 jours jusqu'à la remise du Lion d'Or. Ce sera le samedi 12 septembre. Entre nuages et éclaircies ce mercredi, quelques nuages seront présents au nord de la Loire à la mi-journée. Quelques averses aussi, principalement en montagne. Pour les températures, c'est toujours frais. Comptez 11 degrés à Rennes ce matin, 14 à Paris, 21 à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées à 6h40 sur France Culture. Christian Estrosi appelle Jacques, la droite, à se rallier à Emmanuel Macron pour les prochaines élections présidentielles. Il lance de fait une campagne qui a démarré à bas bruit.
Oui, le maire de Nice estime dans le Figaro d'hier que l'entente est possible si Emmanuel Macron reprend les engagements de la droite sur la sécurité. La plante a, je cite, « agir avec force pour établir l'autorité et l'ordre, réformer la justice des mineurs et confier des pouvoirs supplémentaires aux polices municipales. » Et puis aussi sur la santé. Selon lui, aucun candidat de la droite ne s'impose naturellement. Sans commenter directement ses propos, Françoise Fressoz évoque dans Le Monde le théâtre d'ombre qui est devenu la scène politique à droite. Valérie Pécresse vante sa qualité de femme et Xavier Bertrand son attention au milieu populaire. Bruno Retailleau développe son discours sécuritaire tandis que François Baroin, supposé le plus rassembleur, reste dans une prudente expectative. Si la dynamique écologiste existe bien à gauche, elle est loin de souder les troupes, et ce, au sein même d'Europe Écologie Les Verts. Encore subliminal, le match entre le maire de Grenoble, Éric Piolle, et le député européen Yannick Jadot n'en exclut pas d'autres, les femmes étant en droit de se demander qui les représentera. Et Jean-Luc Mélenchon en passe d'annoncer sa troisième candidature à la présidentielle sous le signe de la révolution écologique, contribue à émietter un peu plus ce camp. Nous n'en sommes pas encore au niveau de la campagne permanente qu'est la politique américaine, mais force est de constater que le quinquennat a eu pour effet pervers de raccourcir le temps de l'action politique et d'allonger celui de la campagne, souligne Chloé Morin dans l'hebdomadaire Le 1, consacré cette semaine aux 600 jours qui nous séparent de la présidentielle. Or, qui peut dire aujourd'hui si le Covid-19 sera de l'histoire ancienne en 2022, ni si et quand l'économie française rebondira, et avec quelles séquelles économiques et sociales, de facteurs déterminants de cette campagne qui s'annonce plus improbable que jamais. Théâtre d'ombre, l'expression revient sous la plume de Patrice Trappier pour désigner les sourdes manœuvres qui agitent les coulisses des états-majors politiques, manœuvres de présélection des candidats aux règles fluctuantes depuis que les primaires ont plus ou moins fait faillite. Pascal Perrineau estime que le président est entré en campagne, il a choisi un Premier ministre qui a l'image d'un homme des territoires, bien que son itinéraire soit celui d'un haut fonctionnaire, un homme censé avoir les qualités qui manquent à un président éloigné des préoccupations locales. Et puisque les enquêtes d'opinion indiquent que les Français sont de plus en plus à droite et que la gauche est profondément divisée, le président a la volonté de préempter cet espace politique afin de rendre plus difficile l'émergence d'un candidat de droite. S'il est vrai que les Français semblent se retrouver de moins en moins dans l'antagonisme gauche-droite, d'autres clivages ont pris le relais qui ne le recoupent pas vraiment et accentuent la confusion. Europe intégrée ou des nations, globalisation contre protectionnisme ou altermondialisme, communautarisme ou universalisme républicain, un véritable palimpseste auquel s'ajoute, selon Édouard Tétrault dans Les Échos, le clivage générationnel, l'épargne des Français a doublé pendant la crise sanitaire, autant d'argent qui n'est pas investi et le chômage partiel a creusé les déficits publics. Le vrai danger de cette pandémie est la bombe à retardement d'une génération qui a joué le jeu de ses aînés, investissement personnel et financier pour étudier en vue d'un métier et à qui on refuse jusqu'à un simple stage. Aujourd'hui, le chroniqueur juge excessives les mesures sanitaires et surtout la frilosité entretenue par un discours anxiogène qui conduit des entreprises rentables à geler les embauches alors que 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Thomas Brantôme, qui participe à des rencontres avec les jeunes dans les quartiers populaires, évoque dans Libération la rage exprimée face aux discriminations et préjugés dont ils sont victimes. Tout sort avec fracas, mais c'est que la plupart sont fracassés. Et dans l'interstice de ces fractures s'immisce le désordre du monde, écrit-il. L'historien du droit et des idées politiques à l'Université de Paris estime que la société ne semble plus capable de dessiner le sens de la vie en dehors du monde marchand et qu'elle capitule devant la réification des rapports sociaux. un constat qui s'applique à la politique et qui affecte jusqu'aux ressources du langage. Le verbe se dérobe, pourtant, des tréfonds du pays, écrit-il, des quartiers aux gilets jaunes, en passant par tous ceux qui dénoncent une démocratie devenue une voix sans voix, une aspiration commune monte, celle de recouvrer la parole. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour Jacques.
Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, la stratégie de sécurité et de défense du Japon après le départ de Shinzo Abe.
Oui, le Premier ministre, qui détient désormais le record de longévité à ce poste, 8 ans sans interruption, a annoncé vendredi qu'il démissionnait de ses fonctions pour raison de santé. Un an avant la fin prévue de son mandat, Shinzo Abe comptait mettre à profit, dit-on, les quelques mois qui lui restaient au poste de Premier ministre pour réviser la constitution qu'il jugeait trop pacifiste, puisqu'elle stipule que le Japon renonce à jamais à la guerre. Il faut rappeler qu'elle a été rédigée juste après la défaite de 45 et quasiment dictée par l'occupant américain. À l'heure où le Japon voit américains et chinois se défier à coups de tirs de missiles balistiques ou d'avions espions en mer des Chines méridionales, la Corée du Nord tirer des projectiles en direction de la mer du Japon, Tokyo va-t-il revoir et ses dogmes en matière de défense et ses alliances? Bonjour Guibourg de Lamotte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'INALCO. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris et vous avez dirigé l'année dernière l'ouvrage collectif Le Japon dans le monde aux éditions du CNRS. Pour un rapide bilan des années Shinzo Abe, vous retenez quoi ?
Alors, il y a eu beaucoup de tentatives du côté de l'économie qui n'ont pas porté tous les fruits espérés dans la mesure où il y a eu un contexte international difficile. Donc un endettement plus fort du Japon. Donc ça, c'est pour le volet économique, disons, de manière schématique. Pour ce qui concerne les affaires étrangères, disons, la place, le rayonnement du Japon dans le monde, il y a eu là aussi une vraie tentative qui a été faite. La stabilité, la pérennité du Premier ministre à son poste a été productive dans la mesure où la stabilité de ce visage, en fait, est rare hein, au Japon. On a rarement un Premier ministre qui reste en place longtemps, et donc on a les interlocuteurs internationaux ont souvent du mal à l'identifier, et puis sans parler du grand public et des opinions. Donc ça, c'était quelque chose de bien. Il y a une régularité des rapports qui s'installe. Dans les relations avec les États-Unis, il a essayé de manœuvrer avec un président Trump quand même compliqué. Il a amélioré la coopération avec l'Union européenne, donc il y a eu des aspects positifs.
Alors sur le plan stratégique et de défense, qui est la question qui nous intéresse spécifiquement ce matin, vous expliquez dans votre livre que Shinzo Abe a rompu en matière de politique de défense avec certaines pratiques en créant notamment un conseil de sécurité nationale chargé d'élaborer une stratégie de sécurité à long terme. Stratégie de sécurité, si on revient un peu sur l'histoire récente du Japon, juste après la défaite de 45, le Japon, en quelque sorte, n'avait pas à avoir une stratégie. Il avait une constitution et des décisions qui devaient être conformes à la constitution, mais pas de stratégie.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'avec la constitution, il s'est trouvé de facto interdit d'avoir une armée. En même temps, avec l'alliance nippo-américaine qui s'est nouée extrêmement rapidement, on lui a demandé de réarmer. Donc, il y a eu une contrainte qui s'est imposée à lui, qui était une double contrainte, qui était contradictoire. Et qu'il a fallu gérer. Et donc, on a somme toute géré les affaires courantes. On a fait face aux difficultés qui se présentaient dans le contexte de guerre froide, donc la menace soviétique. Et puis, après les années 90, ça a été progressivement la menace chinoise. Qu'on a appelé la menace, hein, pour faire simple, chinoise. Mais enfin, elle se concrétise de plus en plus, effectivement. Donc en effet, il n'y avait pas de stratégie ou de vision vraiment à long terme, puisqu'on était dans cette situation où on n'avait pas tellement le droit d'avoir cette stratégie, en effet.
Entre parenthèses, donc c'est un article qui a empêché le Japon de maintenir un potentiel de guerre et d'avoir une armée, mais on dit quand même que sa police, qui est formée par les Américains, constitue de facto une des plus puissantes armées du monde.
Alors, en fait, il a ce qu'on appelle des forces d'autodéfense, qui sont de fait une armée. En réalité, une armée qui est même compétente, très bien armée, moderne, qui a un budget de la défense qui est plus important maintenant que celui de la France. Alors quand on fait des comparaisons internationales, il faut se méfier, ceci dit, des taux de change. Mais le budget annuel en dollars est autour de 50 milliards de dollars. Donc on a une vraie armée avec des sous-marins, alors qu'ils sont pas nucléaires, mais des avions de combat qui sont performants. C'est une vraie armée. Il y a par ailleurs une force de police et puis des gardes-côtes. Donc ça, ce sont des choses distinctes. Mais il y a quand même vraiment une armée. Mais on l'appelle appelle force d'autodéfense parce qu'on est dans cette situation un peu de déni. Alors précisément, un des objectifs d'Abe Shinzo, c'était de faire une révision de la Constitution à minima pour insérer l'existence des forces d'autodéfense dans la Constitution et normaliser leur situation.
Ces forces d'autodéfense, elles interviennent aussi parfois sur des théâtres d'opérations internationales, aux côtés des Américains quand même. Je crois qu'elles sont intervenues en Afghanistan, bien qu'on ait du mal à comprendre en quoi les Japonais étaient menacés en Afghanistan. Mais en tout cas, ils sont intervenus. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui vraiment un débat, oui, pour réviser la Constitution, pour faire en sorte que ces forces d'autodéfense deviennent une armée à part entière, je veux dire reconnue comme telle et peut-être un peu moins hypocrite de...
C'est ça. L'idée serait de les constitutionnaliser officiellement, même si la posture du parti a en fait été pendant 50 ans qu'elles étaient constitutionnelles, évidemment.
C'était donc, une histoire d'interprétation.
C'était une histoire d'interprétation, c'est ça. On disait, le Japon a droit à l'autodéfense, donc il a droit à des forces d'autodéfense. Aujourd'hui, on dit, bon, c'est quand même une situation un peu bancale, ce serait bien de normaliser un peu ça. Alors, de fait, c'est depuis les années 90 qu'elles se sont mises à intervenir à l'étranger. Auparavant, c'était complètement interdit. Et elles l'ont fait parce que on le leur a demandé. C'est-à-dire, dans le contexte de la guerre du Golfe, la première en 90, les Américains ont demandé des alliés une participation, ce que les Japonais ont d'abord refusé. Et deux ans après, ils ont créé un dispositif pour faire du maintien de la paix. Donc cette armée, en réalité, elle peut être sollicitée, ces forces d'autodéfense donc, peuvent être sollicitées sur des terrains nationaux, par exemple pendant Fukushima ou des catastrophes naturelles, les tremblements de terre, ou pour la défense du Japon de manière classique, donc face à la Chine, par exemple, autour des petits îlots Senkaku qui sont contestés.
Il y a des navires japonais en mer de Chine du sud ou pas, là où
Non, les Japonais vont pas en mer de Chine méridionale. Alors justement, ils essayent vraiment d'éviter de jeter de l'huile sur le feu, et donc ils n'y vont pas pour patrouiller. Ils peuvent s'y trouver, mais c'est pas du tout dans une démarche. Non, ils évitent globalement d'y aller, à ma connaissance. Ils ont pu faire des actions, vous voyez, de piraterie par exemple, de lutte contre la piraterie à un moment donné dans le détroit de Malacca. Il peut y avoir des actions ciblées comme ça, mais il n'y a pas vraiment de volonté d'affirmer la liberté des mers en mer de Chine méridionale. Par contre, ils protègent bien la mer de Chine orientale, c'est-à-dire là où ils sont eux, et là où il y a des petits îlots qui, de fait, sont contestés. Juste sur l'Afghanistan, ils n'ont pas été en Afghanistan.
D'accord. Alors, est-ce que le Japon est toujours néanmoins l'obligé des États-Unis, comme il l'a été dès le début de la guerre froide? Est-ce que toutes les décisions qu'il prend, ou au contraire ne prend pas, peuvent être lues aujourd'hui à l'aune de cette relation privilégiée du traité de coopération de 52, renouvelé en 1960, en 1996?
Oui, absolument. C'est-à-dire que il y a en effet un prisme, disons, qui est celui de l'amitié avec les États-Unis, et le sentiment qu'il y a vraiment des intérêts de sécurité qui sont si convergents qu'on peut pas s'affranchir de ce que les États-Unis pensent ou souhaitent. En tout cas, pour ce qui est, vous voyez, quand il s'agit d'augmenter les dépenses de défense, si les États-Unis demandent une contribution plus importante, ce qui était un peu la posture de Trump, bon, on examine sérieusement la demande, on voit comment au moins on peut donner l'impression de faire quelque chose. Et après, sur ce qui a été la participation, alors c'était pas en Afghanistan, c'est dans l'océan Indien, mais néanmoins, c'était précisément pour montrer, vous voyez, une solidarité avec les États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre, par exemple.
Et néanmoins, vous avez ausculté les votes, par exemple, aux Nations Unies, et vous avez vu que le Japon ne suivait pas toujours le vote des Américains aux Nations Unies.
Exactement. Et je vous remercie de le mentionner. En effet, on a souvent cette vision du Japon qui suit les États-Unis, et de fait, c'est faux. Le taux de convergence des votes avec les États-Unis aux Nations Unies est inférieur à celui de la France avec les États-Unis. Donc c'est vrai qu'on a parfois cette idée reçue, le Japon est bien maître de sa diplomatie néanmoins. Et en particulier, on le voit d'ailleurs sur la défense, avec cet exemple que je donnais sur la guerre du Golfe, vous voyez, les États-Unis ont demandé une intervention sur le terrain en 90, le Japon s'est mis en mesure de faire du soutien humanitaire deux ans plus tard. Donc la demande et la réalisation n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre.
Comment il se sent, le Japon, entre guillemets, aujourd'hui, encore une fois, tout près d'une mer de Chine méridionale où les affrontements encore très soft entre guillemets entre Américains et Chinois sont quand même de plus en plus sont révélés chaque jour, où la Corée du Nord est toujours un voisin quand même considéré comme dangereux, et puis avec Trump qui peut-être s'en désintéresse un peu, et la Chine qui continue à monter en puissance. Donc le Japon se trouve quand même dans une situation inédite.
Absolument. Le Japon, c'est une situation que le Japon voit arriver depuis à peu près 20 ans, dont il essaye de parler avec les Français, d'ailleurs, qui n'avaient pas du tout la même perception de la menace chinoise. La perception française commence à évoluer un petit peu. Mais de fait, les Japonais se sentent tout à fait menacés, c'est vrai, entre une Corée du Nord qui est très imprévisible, disons, qui mène son jeu avec brio presque, hein, par moment, on peut le dire. C'est même si ça nous plaît pas beaucoup. Et le Japon, au premier chef, puisqu'il est juste à côté de tous ses missiles et de ce nouveau programme nucléaire, donc incontrôlé. Et puis la Chine, qui en effet, elle mène sa politique de puissance, qu'on voit s'étendre à l'Inde, au Bhoutan, autour du Népal, du Pakistan, et puis partout, même jusqu'en Europe. Mais en particulier en mer de Chine méridionale. Alors ça, c'est une évolution qu'on voit depuis une quinzaine d'années de manière très marquée. C'est effectivement, elle s'est accaparée des récifs qui sont complètement contestés. Donc elle avait le droit, à la limite, de revendiquer une souveraineté, elle aussi, mais pas de les accaparer et de les militariser, surtout. Elle en a fait des bases. Elle les a sortis de l'eau, elle en a fait des bases permanentes.
En quelques mots, Guy Bourdelamotte, qui sont aujourd'hui les meilleurs partenaires du Japon? Quel pays, et notamment voisin, cherche à développer, à approfondir la relation avec lui, plutôt qu'avec la Chine ou plutôt qu'avec l'Australie, qui est quand même une grande puissance régionale aussi?
Alors justement, l'Australie, c'est un des grands partenaires du Japon, donc ce serait un des premiers que j'aurais mentionné. Il y a l'Inde également. L'Inde est une puissance régionale avec qui les relations sont bonnes et qui, elle, se développe, mais l'Inde fait attention à ce qu'elle fait avec la Chine également. Mais bon, il y a eu des escarmouches récemment. Donc l'Inde fait partie des pays avec lesquels le Japon dialogue beaucoup. Il y a le Vietnam également, et puis d'autres pays d'Asie du Sud-Est de manière un peu plus discrète.
Et un peu plus loin, des pays d'Afrique avec lesquels le Japon essaye de contrecarrer les nouvelles routes de la soie chinoise. Merci beaucoup, Guy Bourdelamotte, d'avoir été avec nous ce matin. Le Japon dans le monde, c'est l'ouvrage collectif que vous avez dirigé et publié aux éditions du CNRS. Merci.
Merci beaucoup.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Sur France Culture, à l'heure du déjeuner, Olivia Gesbert vous invite à sa grande table.
Toute l'actualité culturelle et des idées en deux fois une demi-heure. On ouvre la semaine avec un historien qui fait date, Patrick Boucheron. On la refermera avec un bon onze de la littérature, Emmanuel Carrère. Mais aussi une comédie musicale signée Blandine Rinkel, un thriller écologique, celui de Pierre Ducrozet, un polar rural, Laurent Mauvignier, et L'Arche de Noé, de Joël Zask.
La grande table, de lundi à jeudi à midi et sur francekulture.fr.
La police est-elle plus violente sous la présidence Macron? Les ondes de téléphone portable donnent-elles le cancer? L'allaitement est-il indispensable pour le nourrisson? L'homosexualité est-elle un choix? Mais surtout, est-ce que le Père Noël, Rubicon et Barbu est une invention de Coca-Cola? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses, les idées claires. C'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
À 6h57, les petits matins laissent la place au matin de France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Yo, Julie Gacon.
Yo, d'accord. Ah ben ça y est, vous vous ensauvagez, Guillaume. Quelle est la nature du mot, la racine du mot ensauvagement? C'est votre humeur du jour.
C'est une question absolument légitime, Julie, puisque figurez-vous que selon une docteure en sciences du langage, citée par BFM TV, je sais, hein, c'est une phrase un peu étrange, sauvage provient du latin silva, qui veut dire la forêt. Le mot ensauvagement figure aussi dans un poème de Césaire. Bref, toute la France s'est plongée dans la généalogie linguistique pour trancher la querelle entre deux ministres, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur pro-ensauvagement, et Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, anti-ensauvagement. Et cependant, il y a un auteur que l'on a peu entendu, c'est Corbac Wood, le corbeau à capuche, lequel n'est pas un habitant des bois ensauvagés, mais un rappeur grenoblois. Car figurez-vous que Monsieur Wood est probablement l'auteur de la fameuse vidéo où l'on voyait des armes des dealers encagoulés, donc ensauvagés, circuler dans le quartier du Mistral à Grenoble. Les images de cette scène d'une rare violence ont circulé un peu partout, YouTube, BFM, provoquant un ministre de l'Intérieur décidé à ne rien céder aux ensauvagés. Tout ceci a donné lieu à une descente de police lourdement filmée, suivie d'une polémique tout aussi lourdement filmée entre le maire de Grenoble, Éric Piolle, et le ministre de l'Intérieur. Sauf qu'apparemment, ces scènes terribles étaient entièrement bidons, plus précisément destinées à tourner un clip de rap, celui de la dernière chanson de Corbac Wood, intitulée Chicagre, Chicagre. Je ne sais pas si vous avez compris, à mon avis, pas la peine de réveiller le docteur en sciences du langage, cité par BFM TV, Chicagre, dont voici un extrait, ça va vous aider à vous lever.
Il y
Grenoble c'est chaud, Grenoble c'est chicagreux. Pas le temps de chicaner, du shit ou de la baveux. Pour rentrer des sous, ça fait des petits combus. T'étais où frangin quand je finissais le TP? Et je rentrais à pied, je suis dans un bourbier. Retiens bien, j'arrive à se laisser du rap de zonard. Sur ta tête un molar, à la recherche de monnaie. Impossible de faire...
Alors bien sûr, hélas, il n'y a pas que des clips dans la vie, mais enfin celui-ci en était un et se terminait par ces mots. Les armes sont factices, les produits n'étaient que du CBD, seuls les friandises sont vraies et... Korbach Oud, de remercier les médias qui s'étaient émus de la violence à Grenoble et qui avaient assuré donc sa publicité. J'espère qu'il remerciera les matins puisque c'était son premier passage, le premier passage de Korbach Oud sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et dans quelques instants, on va évoquer une rentrée masquée. La France se voile la face, école, bureau, espace public, le masque s'est généralisé dans notre paysage quotidien. On en parlera avec deux philosophes, Corinne Peluchon et André Comte-Sponville. 7h sur France Culture, excellent réveil à tous.